Vie avec Hicham Benabastar, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour madame, toujours un plaisir.
Mais plaisir de vous retrouver également. Alors il est question aujourd'hui du cycle menstruel et ses troubles. Alors avant de vous donner la parole à Asma, j'invite aussi les auditeurs à poser toutes leurs questions sur notre application Lux Radio.
Hicham Benabastar, le cycle menstruel est une horloge interne propre à chaque femme. N'empêche qu'un cycle menstruel peut être retracé et divisé en plusieurs phases. Lesquelles ?
Tout à fait. Alors premièrement, le cycle menstruel, il faut dire que c'est quelque chose qui ne paraît pas, il est invisible. La seule visibilité de cela, c'est les règles. Et les règles, c'est pas le début du cycle, c'est la fin du cycle précédent. C'est-à-dire, c'est un saignement lié à des fluctuations hormonales qui vont changer au cours du cycle et qui vont développer l'endomètre, c'est le tissu de l'utérus, le tapis qui recouvre l'utérus, de telle manière à préparer une grossesse. Et quand il n'y a pas de grossesse, et ben, ces hormones, et ben, elles vont chuter pour donner un autre cycle, mais en chutant, et ben, elles vont donner le saignement de cet endomètre qui n'a pas eu de grossesse. Et bien sûr, et ben, quand on a une grossesse, et ben, c'est pour ça que les règles disparaissent. Mais le seul repère vraiment qu'on a, c'est du cycle, c'est justement les règles. Et par consensus, mais c'est juste une façon de compter, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles, alors qu'en fait, les règles, je le répète, c'est la fin du cycle précédent. Alors, ces hormones, il y a grosso modo deux phases. La première phase, ce qu'on appelle la phase folliculaire, où vous avez des hormones qui vont aller produire un ovule, qui va aller sortir, qui va pour avoir une ovulation. Donc ça prend environ 14 jours en général, et donc jusqu'à l'ovulation, il y a une ovulation. Et puis il y a une deuxième phase, ce qu'on appelle la phase lutéale, où au contraire il y a une deuxième hormone qui est synthétisée, qu'on appelle la progestérone, et qui va servir à développer cet utérus, le préparer à une grossesse de telle manière. Donc, s'il y a une rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule et qu'il y a une fécondation, et donc, si jamais fécondation il y a, et bien, il faut que l'utérus soit prêt à recevoir cette grossesse. Mm-hmm. Donc, grosso modo, voici les deux, ou je dirais trois phases.
Trois phases.
Phase folliculaire, la première. Mm-hmm. Tout simplement. Phase folliculaire, la première, qui dure environ 13-14 jours. La phase d'ovulation qui dure un jour et la phase lutéale qui dure elle aussi 14 jours. Mmh, voilà.
Mmh. Hicham Benabastar, dans quelle mesure ces deux hormones, les œstrogènes et les progestérones, vont influer sur les sensations tant physiques que psychologiques chez la femme ?
Justement, ce sont les effets de ces hormones qui sont les œstrogènes en première partie. Les œstrogènes, ils ont un rôle qu'on appelle trophique. Ils ont un rôle de multiplication, de boost. C'est des hormones, c'est une hormone qui donne de l'énergie, de la force, je dirais. Et ils vont justement multiplier les cellules de l'endomètre, ce tissu de l'utérus qui est tombé. Et il reste plus que la base. Et ben, c'est les œstrogènes qui vont faire multiplier ces cellules de l'endomètre de telle manière à arrêter le saignement et à redévelopper un nouvel endomètre. Et les œstrogènes ont aussi la tendance à donner un peu d'irritabilité, de tension, de rétention d'eau, c'est ça qui donne les œdèmes, donc ça peut donner des douleurs un petit peu. Donc les œstrogènes ont tendance à donner ces signes-là, d'accord ? Alors qu'au contraire, et ils donnent aussi un autre signe, l'irritabilité, les œstrogènes peuvent donner un peu d'irritabilité. Mais encore une fois, j'utilise le terme tendance à. Après, la progestérone, c'est une autre phase. La progestérone sert à développer cet endomètre, à le préparer à et au contraire à arrêter les contractions de telle manière à tenir cette grossesse, cette éventuelle grossesse. Et la progestérone, elle a plus tendance à somnoler, à relâcher. Voilà, voilà les effets un peu de. Mais maintenant, donc quand il y a des troubles du cycle, c'est pour ça qu'on va retrouver au moment de l'ovulation, par exemple, il y a beaucoup d'œstrogènes, et ben la femme sent un petit peu son ovulation. D'ailleurs, je dirais, le bon Dieu a bien fait les choses. Quand vous êtes en période ovulatoire, la femme a presque tendance instinctivement à chercher la relation sexuelle parce que c'est ça qui va la féconder à ce moment-là. Mm-hmm. Voyez. Mm-hmm. Alors qu'au contraire,
après, donc c'est un effet à contextualiser quand même.
Mais tout à fait. Mais je vous dis instinctivement, il y a ça. Et après, une fois qu'il y a eu l'ovulation, ça y est, on n'a plus besoin de rapport, je dirais à la rigueur, pour féconder. Donc, ça se calme. Et souvent, dans les troubles, même si vous avez posé la question pour tout à l'heure, par exemple, des fois, il y a des différences entre les niveaux d'œstrogène et de progestérone. Il y a un excès d'œstrogène, notamment avant les règles. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir d'autres signes, par exemple, mal au sein, et de la tension mammaire, de l'irritabilité, c'est ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, parce qu'en fait, il y a un manque en progestérone, où il y a un excès d'œstrogène en deuxième phase du cycle, avant les règles, avant les prochaines règles.
Et l'appétit dans tout ça, Hicham El Abastahjee ?
L'appétit, bon, l'appétit est variable, je dirais peut-être que les œstrogènes ont tendance à plus ouvrir l'appétit que la progestérone qui... Mais si vous voulez, votre question, après, parce qu'on va à la périménopause, je pense que vous pensez, la périménopause, est-ce qu'elle ferait plus grossir ou... Il y a beaucoup de fluctuations hormonales et c'est variable, l'appétit et tout, c'est variable entre les patientes, je dirais, entre les femmes.
Parce que vous disiez tout à l'heure que on va dire le cycle est invisible, mais si vous demandez à une femme, elle vous dira qu'elle va ressentir, on va dire, toutes ces variations tout au long de son cycle. C'est pour ça que je vous pose la question, simplement.
Oui, mais je vous dis, c'est variable. Je peux pas vous dire que ben, vous avez plus faim au moment de l'ovulation.
Oui, évidemment.
Je ne peux pas le dire comme
Justement, Hicham El Abastahjee, comment expliquer l'intensité de ces symptômes prémenstruels dont vous parlez chez certaines femmes et leur absence chez d'autres?
Parce que la médecine n'est pas une science exacte et chaque femme est une femme. Il peut y avoir l'ovulation peut être variable. Il y a des niveaux d'hormones, de production d'hormones qui peuvent varier d'un cycle à l'autre et qui peuvent aussi être influencés par d'autres choses. Par exemple, les émotions, le stress, ça peut influencer le niveau de votre ovulation et faire que vous allez avoir une ovulation décalée, donc des niveaux d'hormones décalés. Et il y a plein de facteurs, je dirais, exogènes qui peuvent intervenir et qui donc vont faire que vous avez des niveaux d'œstrogènes qui variables et donc des symptômes variables. Vous voyez, et des fois, ben, vous allez sentir, d'autres fois, vous n'allez pas sentir. Par exemple, il y a quelque chose qui vient beaucoup, qui revient souvent. Par exemple, dans cette pandémie de Covid, on le retrouve, le stress. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des retards de règles sans être enceintes. Pourquoi ? Parce que le stress, tout ce qu'on a vécu maintenant, ces trois derniers mois, eh ben, est susceptible d'entraîner un blocage des hormones qui poussent à l'ovulation et qui viennent au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus, dans une zone du cerveau. Et donc, ce stress, la petite déprime, la dépression, un stress majeur, une anxiété particulière, ça peut tout simplement bloquer la FSH et la LH, ce sont aussi des hormones qui sont synthétisées par le cerveau, pour aller dire à l'ovule, produisez des œstrogènes, puis produisez de la progestérone, et ben ce stress peut bloquer la commande d'en haut. Donc, il n'y a pas de cycle ou il y a un retard de cycle. Et c'est pour ça que vous allez avoir un retard de règles, voire pas de règles.
Donc, c'est un des troubles qu'on peut avoir justement et qui vont faire que le cycle ne va pas être régulier. Très bien. Je reviens juste aux symptômes prémenstruels. Est-ce qu'il existe un remède pour ces femmes chez qui ces symptômes vont être handicapants ou bien il faut laisser faire la nature? Qu'est-ce que vous recommandez en tant que médecin?
Moi, je recommande de traiter. Pourquoi souffrir quand on peut traiter? Maintenant, il y a...
Comment
on peut traiter? On va traiter justement par des hormones. On peut donner d'abord... Pourquoi ces excès de symptômes? Parce qu'il y a des excès d'œstrogène où il y a un manque de progestérone, ce qu'on appelle une insuffisance lutéale. Le corps jaune, ce qui reste après l'ovulation, ne produit pas suffisamment de progestérone. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est le fait. Donc, il y a un excès d'œstrogène qui fait cette tension mammaire, cette irritabilité, ce mal-être juste avant les règles. Eh ben, soit on peut donner des progestatifs, la progestérone, donc dans les 10 derniers jours du cycle, avant les règles, pour essayer de corriger cela. Et si ça ne suffit pas, on peut carrément donner une pilule œstroprogestative avec des œstrogènes et de la progestérone qui va bloquer le cycle normal, naturel. En fait, dans toute la contraception œstroprogestative dont on a déjà parlé, eh ben, en fait, on va bloquer les hormones naturelles. On va apporter des hormones synthétiques qui vont bloquer le cycle naturel.
Mais si la femme ne veut pas prendre de pilule, par exemple, est-ce qu'il est possible de prendre un traitement hormonal sans pour autant que ce soit une pilule, par exemple?
Vous dites vous-même traitement hormonal. Mmh. Il y a deux types de traitement hormonal. Il y a la pilule, le traitement hormonal.
C'est mon côté anti-pilule qui parle, oui, simplement.
Je vous dis tout simplement, il y a la pilule œstroprogestative avec des œstrogènes et de la progestative. Ça, on bloque totalement le cycle, donc avec un cycle naturel, avec un cycle artificiel. Mmh. Ou bien il y a des pilules progestatives pures contenant juste donc de la progestérone. C'est aussi efficace, mais ça va avoir d'autres effets secondaires. Mmh. Il y a rien sans effet secondaire. Mmh. C'est-à-dire que les progestatives pures, les pilules progestatives pures, elles sont efficaces, elles bloquent, elles corrigent, elles empêchent donc cette production d'œstrogène et de progestérone, sauf qu'elles vont avoir un effet sur l'endomètre, qu'elle va l'atrophier, elle va le rendre très fin. Mmh. Et ça peut donner des saignements.
D'accord, très
si
bien.
Si vous voulez, donc ça peut donner des spotting. Si vous voulez contrôler votre cycle, le meilleur contrôle du cycle artificiel vient avec une pilule œstro-progestative. Mmh. Mais si vous avez des contre-indications, si vous avez peur de cela, bien sûr, mais surtout s'il y a des contre-indications, eh ben, on peut passer à d'autres traitements.
D'accord, très bien. Donnez voilà. Hacham. Oui, alors Hacham Ben Abbas Tahji, une question d'auditrice sur notre application Lux Radio. Donc, comment une femme de 33 ans peut avoir une absence de règles pendant 6 mois après avoir fait tous les tests qui prouvent qu'elle est correcte? Alors, est-ce que c'est un cas de figure que vous avez déjà rencontré?
Fréquemment. Alors, pour raisonner, je sors les tiroirs. Quand on a une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles, il y a 4 choses qu'il faut éliminer. Premièrement, est-ce qu'elle n'est pas enceinte? C'est facile à éliminer. D'accord? Oui. Deuxièmement, après, pourquoi? Donc, si elle n'est pas enceinte, pourquoi ça bloque? Il y a 3 causes après. Je vous dis le stress. Le blocage, il vient d'en haut. C'est-à-dire que la commande centrale qui va donner la FSH et la LH pour stimuler les ovaires pour produire des œstrogènes et de la progestérone ne sont pas là. Pourquoi? Je vous dis le stress, tumeur cérébrale, blocage particulier, dépression, c'est des éléments qui font ça. Deuxième diagnostic auquel il faut penser, c'est le syndrome des ovaires polykystiques dont on a déjà parlé. Il y a une mauvaise ovulation, il n'y a pas ou une absence d'ovulation, il y a beaucoup d'œstrogènes. D'accord. Donc, il y a ces tensions, il y a cette tension mammaire, cette irritabilité. Mais parce que c'est ça le syndrome des ovaires polykystiques, il n'y a pas d'ovulation ou il y a une ovulation retardée. Et donc, à ce moment-là, vous prenez des progestatifs, bingo, 10 jours plus tard, vous avez vos règles. Mais vous ne les avez pas eues parce qu'avant, il n'y avait pas de progestérone. Mmh. Troisième cause, c'est ce qu'on appelle les insuffisances ovariennes prématurées, qu'on commence à voir de plus en plus chez des femmes jeunes, des femmes qui ont un capital folliculaire, un capital de follicules qui vont donner des ovules, qui diminue beaucoup. Ça va approcher la ménopause précoce. Je ne peux pas vous dire, mais j'en constate de plus en plus, des femmes à 35 ans, 30 ans, qui vont aller vers une ménopause précoce parce qu'elles n'ont plus un grand capital folliculaire. Et cela, donc, les ovules, elles commencent à... C'est pas blanc,
noir... Vous dites que c'est une tendance dernièrement?
On remarque ces dernières années, plus de femmes qui viennent consulter avec une réserve folliculaire, c'est-à-dire sa capacité à avoir des follicules et donc à enfanter, qui diminue beaucoup. C'est un truc qu'on le voit par rapport à une hormone qu'on appelle l'AMH et qui nous donne la réserve de ces follicules. D'accord? Et quand ces follicules commencent à diminuer, eh ben, elles ovulent de moins en moins. Et c'est pour ça que donc elle a pas ses règles. Ses règles viennent plus tard, au bout de 3 mois, 6 mois. Donc je vous dis, ça fait 4 diagnostics auxquels je dois penser. Il y a un cinquième, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas un kyste, est-ce qu'il n'y a pas une tumeur qui produit des hormones, donc qui bloque, je dirais externe entre guillemets, externe à l'ovaire, qui elle bloque ce cycle. Mais sinon, je vous dis, voilà les 4 causes auxquelles on doit penser en premier. Éliminer une grossesse. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas des ovaires polykystiques? Est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire une femme qui va faire une ménopause précoce? Et en dehors de ça, eh ben, le stress, le stress, la dépression, un coup dur, je vous dis juste ce qu'on a vécu, c'est tout à fait capable d'entraîner un trouble du cycle, c'est-à-dire une aménorrhée, une absence de règles, un retard de règles.
Très bien. Hacham Ben Abbas Tahji, venons-en maintenant à l'ovulation qui se produit en moyenne 14 jours avant la date des prochaines règles. Le corps de la femme enregistre à ce moment un pic d'œstrogène. Certaines femmes ressentent aussi des douleurs pendant cette période. Pourquoi?
Tout à fait. Merci de préciser, merci de poser cette question. Théoriquement, c'est 14, au 14e jour. Attention, ça peut être aussi avant, 10 ou 15 ou 16, c'est pas sûr. C'est théorique, 14 jours. C'est comme quelque chose qu'il faut que je dise. Le cycle, il a 28 jours théoriquement, c'est vraiment une moyenne.
La normale. Ça peut aller jusqu'à 35 jours.
Voilà, la normale du cycle, c'est 21 à 35. Maintenant, c'est facile et on est parti sur 28, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait normal parce que vous êtes à 26 ou parce que vous êtes à 31. L'essentiel, c'est la régularité. Maintenant, cette ovulation se fait quand le follicule a grandi. L'ovulation, il faut que l'ovule sorte de l'ovaire. Ça fait mal. C'est un processus qui prend quelques heures, quelques jours pour trouer un petit peu la paroi de l'ovaire. Pour pouvoir sortir. Et donc, c'est pour ça que certaines femmes sentent leur ovulation. Elles peuvent le sentir que justement, il y a eu une petite douleur ou quelque chose. Comme il peut y avoir un kyste, une hémorragie à ce moment-là, comme il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des hémorragies de la quinzaine, c'est-à-dire des petits saignements au moment de l'ovulation. Mais c'est quelque chose qui est très variable et généralement, on ne le sent pas. C'est pour ça que je dirais, les femmes qui veulent tomber enceinte, moi je n'aime pas entendre « je vais ovuler tel jour, donc il faut un rapport sexuel tel jour ». Surveiller son ovulation, pour moi, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il faut avoir des rapports réguliers tous les 2-3 jours. C'est suffisant pour couvrir une ovulation, parce que vous pouvez souvent vous tromper, soit pour tomber enceinte, soit pour ne pas vous tomber enceinte.
Oui, le contraire arrive souvent aussi.
Voilà. J'ovule le 14e jour, donc je suis en période. Parce que souvent, je vous dis, et notamment les applications des smartphones et tout qui vous dit j'ovule tel jour, c'est fiable à 80%, mais des fois, ce n'est pas du tout fiable. C'est ça que je veux dire. Donc, si vous voulez, voilà, juste je terminerai par rapport à ça. Si vous voulez ne pas tomber enceinte, absolument ne pas tomber enceinte, il faut une contraception efficace. La SEB, pour moi, c'est une solution qui n'est pas bonne. Au contraire, si vous voulez tomber enceinte, il ne faut pas avoir un rapport au moment de l'ovulation présumée. Il faut avoir 2-3 rapports par semaine.
Très bien, le message est passé. Alors, pour terminer, Hicham El Abbaz Tarji, la chute du taux d'œstrogène et surtout de progestérone provoque la destruction de l'endomètre. Les débris tissulaires excédentaires de l'endomètre sont ainsi évacués avec du sang par le col de l'utérus jusqu'au vagin. C'est la période des règles. Une période qui peut s'avérer particulièrement douloureuse pour les femmes. À votre avis, un congé menstruel est-il nécessaire partout, comme en Asie par exemple?
Je ne sais pas, je ne suis pas sociologue et je ne suis pas politicien pour décider ça.
Vous n'avez pas votre propre avis sur la question?
Non, je sais, je peux pas donner un avis. Quand une femme vient chez moi qu'elle a des règles très douloureuses, qu'on appelle des dysménorrhées, je peux très bien lui donner un certificat médical, je comprends, mais je vais lui donner des médicaments pour soulager sa douleur, éventuellement donner une pilule, encore une fois, je sais que vous n'aimez pas ça, mais pour la bloquer, pour bloquer son cycle et permettre d'avoir des règles moins douloureuses. Mais si c'est une jeune fille qui a des règles très douloureuses tout le temps, il faut aussi penser à une endométriose et chercher, explorer dans ce sens.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Hicham El Abbaz Tarji. Je rappelle que vous êtes...